Oh, mikis pastil.
Mikis pastil.
Oh, mikis kis pas.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Nouvelles du Monde pour ce mardi 16 décembre. Aujourd'hui, une petite palette éclectique d'informations glanées de ci, de là. Tout d'abord, on va s'intéresser à la progression de cette épidémie de dermatose nodulaire contagieuse qui se rapproche de chez nous et qui touche de plus en plus d'élevages du sud et du sud-ouest. On va parler du foie gras, de la filière du foie gras en France, d'un festival Antifa à Lyon qui a failli être interdit, un festival musical principalement. Et en parlant d'extrême droite, eh bien, le retour à la tête du Chili d'un gouvernement fortement et complètement inspiré même de l'héritage d'Augusto Pinochet. Et enfin, on parlera aussi d'une guerre des polices, mais la police de caractère, Times New Roman contre Calibri, c'est aux États-Unis que ça se passe. Et pour finir sur une touche positive, je vous emmènerai à Ganges, où a eu lieu la semaine dernière l'inauguration de tout nouveau bac de compostage. Tout d'abord donc des infos de cette épidémie de DNC, hein, la dermatose nodulaire contagieuse. Elle continue sa progression dans les Pyrénées et dans le sud-sud-ouest de manière plus générale. En effet, après des foyers détectés en Ariège et en Haute-Garonne, où plusieurs agriculteurs se sont mobilisés pour empêcher l'abattage des bêtes la semaine dernière, c'était au tour de l'Aude de confirmer un cas. C'était avant-hier à Pomas, on est juste en dessous de Carcassonne, le dimanche 14 décembre. Le lundi, la ministre de l'Agriculture s'est rendue d'ailleurs à Toulouse pour défendre son protocole, qui consiste, vous le savez, par l'abattage total des troupeaux dans lesquels un cas a été détecté, le tout sur fond de colère agricole qui monte et qui secoue donc tout le sud-ouest de la France, après avoir touché tout d'abord l'est du côté des Vosges. La maladie, d'ailleurs, c'est là-bas qu'elle a été détectée pour la première fois sur le territoire, c'était en Savoie, pardon, le 29 juin 2025, et depuis, cela progresse. Dès la confirmation de la maladie ce dimanche, l'unité épidémiologique infectée qui était composée de 10 bêtes a été abattue conformément au protocole sanitaire en vigueur. C'est ce qu'indiquait la préfecture hier. Il semblerait donc que pour ce cas, il n'y ait pas eu de forte mobilisation des agriculteurs autour de l'exploitation, l'abattage n'ayant pas été médiatisé. Pour l'instant, deux autres abattages ont eu lieu, donc les 209 vaches du GAEC de bovins à Bordes-sur-Arize en Ariège, c'était la semaine dernière, qui a fait pas mal parler de lui, puisque les forces de l'ordre sont intervenues pour accéder à la ferme. Il y a eu également 35 bêtes tuées à Touille, en Haute-Garonne. Et hier, donc, la suspicion de nouveaux cas de DNC avait été, elle, autour d'un élevage à Banque, on dit, dans le sud de la Haute-Garonne. Cette suspicion cristallise l'attention et des tests sont encore en cours. En ce moment même, où on parle peut-être que d'ailleurs les résultats sont tombés, en tout cas aux alentours de ce village qui était à 1 heure de Toulouse. 3 cadavres d'animaux ont été découverts, c'était ce samedi, ce qui laissait craindre l'existence d'un nouveau foyer de DNC et donc l'abattage des troupeaux par la suite. Les tests étaient en cours hier, je vous le disais, puisque toutes les bêtes doivent être testées. Une bête peut être malade et les autres complètement en saine et ça n'apparaît pas. Malgré cela, la maladie, elle continue de se propager, notamment via des vecteurs vivants comme par exemple des moustiques ou des mouches. En tout cas, dès l'annonce de ces tests, hein, via les réseaux, suite aux demandes d'ailleurs de l'éleveur, un rassemblement s'est organisé aux abords de sa ferme, hein, pour faire face, si besoin, à d'éventuelles mesures d'abattage et surtout aussi l'intervention des forces de l'ordre pour permettre aux vétérinaires d'accéder aux étables. Des centaines de personnes étaient donc déjà réunies sur place, paysans, voisins ou bien simplement soutien politique, et des vidéos sur les réseaux sociaux du coup appelaient toutes les personnes à les rejoindre. Face à cette crise donc de la DNC, la mobilisation des agriculteurs en colère se répand elle aussi sur le territoire. Hein. Par exemple, dans le Gard, ce matin, à 4h du matin, des agriculteurs ont déversé des détritus et des végétaux, parfois en y mettant le feu, sur l'ensemble des voies d'accès au péage autoroutier sur l'A9. C'était par exemple le cas à Roquemort, à Remoulins, à Nîmes-Ouest, Nîmes-Centre, Galargues, Le Montieux. À la sortie Nîmes-Ouest, hein, en kilomètre delta, le blocage lui s'est fait carrément sur le gros rond-point avec filtration des véhicules. De même au niveau de Garon sur l'A54 qui était complètement bloqué dans les deux sens. Et donc depuis 4h ce matin, le préfet du Gard a activé le centre opérationnel départemental pour suivre l'évolution de la situation. On comptait à 6h du matin 80 tracteurs engagés avec 220 personnes sur place sur ces barrages. À noter d'ailleurs qu'une action a aussi été menée au Vigan. Des blocages filtrants ont été mis en place le matin, mais la circulation a été normalisée. Et surtout, un gros paquet de fumier et de paille et de résidus végétaux ont aussi été déversés devant les portes de la sous-préfecture.
Ah oui, carrément.
Qu'est-ce qu'il fout en milieu rural aussi ?
Puisqu'on parle d'élevage, une brève vient raviver aussi les questionnements autour des pratiques des fêtes de Noël. C'est dans le journal Reporter que j'ai glané cette info. Pour la première fois, une étude s'est en effet attaquée à analyser les aides publiques qui sont données notamment à la filière du foie gras. C'est sur la région Nouvelle-Aquitaine que cette étude a été menée. Et on y apprend que la filière du foie gras survit principalement grâce au financement public. C'est l'Observatoire des subventions et des aides agricoles en France, l'OBSAF, qui l'a constaté et donc consigné dans un rapport qui a été publié ce 12 décembre. Selon cette association, presque 14 millions d'euros d'aides publiques ont été versés à la filière du foie gras entre 2022 et 2025. C'est 60% de cet argent qui vient de l'Union européenne et 35% par la région. Le montant réel est sans doute plus élevé, puisque plusieurs administrations n'ont pas transmis l'ensemble des documents demandés d'ailleurs, rajoute l'Observatoire, qui lui a été créé en 2024, donc qui pour observer les subventions et les aides agricoles en France. Cette étude révèle une architecture déséquilibrée, à savoir que ce sont les plans de modernisation des élevages qui absorbent à eux seuls plus de 7 millions d'euros sur les 14 dont on parle, et ces 7 millions sont essentiellement consacrés à la biosécurité, le tout dans un contexte de grippe aviaire qui est permanent. Loin de réduire les vulnérabilités, ces investissements contribuent à maintenir un modèle très intensif dont les paramètres fondamentaux, à savoir des densités très élevées d'animaux, des flux intégrés, une concentration territoriale, donc dont tous ces paramètres demeurent eux inchangés, constate l'OBSAF. Et alors même qu'elles ne changent rien à leur pratique, des installations, elles, vont bénéficier d'aides au titre du dispositif NeoTerra, un dispositif de la région Nouvelle-Aquitaine qui est destiné à orienter les aides agricoles vers des trajectoires plus durables. Par ailleurs, l'essentiel de cet argent va aussi aux industriels. Les ateliers fermiers et les modèles artisanaux ne représentent que 3% des aides à la transformation, selon cette étude. Et pourtant, la communication de la filière, qui elle aussi bénéficie d'argent public, véhicule une image bien différente de la réalité. On peut y lire les mots comme tradition, excellence française ou patrimoine gastronomique. Ce sont les mots-clés qui sont systématiquement employés sur notamment les emballages et la communication de ces marques. Face à tous ces constats, donc plutôt négatifs, l'OBSAF recommande une refonte profonde des modes d'attribution des aides publiques et il estime que les terres actuellement dédiées au maïs pour le gavage, donc le maïs est une culture fortement consommatrice d'eau, ces terres pourraient plutôt être converties en production à haute valeur nutritionnelle ou climatique, à savoir des légumineuses, des céréales ou des protéines végétales destinées à l'alimentation humaine. On part maintenant du côté de Lyon, où un festival est finalement maintenu, hein, malgré des tentatives de censure de la part de l'État. Le festival s'appelle le Antifa Fest. Une tentative d'interdiction a eu lieu par la préfecture et donc de ce festival Antifa qui a lieu à Lyon et Villeurbanne, mais finalement cette interdiction a été annulée par le tribunal administratif. C'était donc ces 11 et 13 décembre que le festival Antifa Fest devait se tenir à Villeurbanne à côté de Lyon, avec des concerts et des conférences en soutien donc aux luttes antifascistes et plus largement contre le racisme, le sexisme et les violences policières. C'est peut-être ça qu'a fait tiquer la préfecture, qui a donc tenté d'interdire l'événement. En effet, le mercredi 10 décembre, donc la veille du démarrage, plusieurs arrêtés préfectoraux ont été déposés dans le but de censurer ce festival, hein, Ça a fait notamment suite à une campagne d'intimidation menée par l'extrême droite et les syndicats de police. Et bien malgré cette tentative, donc les organisateurs peuvent souffler, l'événement aura bien lieu, enfin a eu lieu, pardon. C'était jeudi soir que ça s'est dénoué au tribunal administratif, puisqu'a été étudié justement un référé liberté qui est déposé par les organisateurs pour contester donc les arrêtés préfectoraux. Du côté de la préfecture du Rhône, donc, la préfète Fabienne Bouchiot motivait sa décision par un trouble des consciences. Alors là, je vous laisse aller étudier ce que c'est, parce qu'on ne sait pas bien ce que ça veut dire, le trouble des consciences. C'est une formule pour le moins étonnante, hein, et l'arrêté justifiait donc l'interdiction de ces concerts qui avaient lieu les 11, 12 et 13 décembre, au motif que les artistes seraient coutumiers de propos anti-système et anti-police. Elle s'appuyait pour cela sur des extraits de leurs chansons. Pour un des organisateurs du festival qui a été interviewé, il s'agit d'une volonté de censure grave, non seulement contre la liberté d'expression, mais contre l'expression d'artistes dans le cadre créatif et également de contrôle d'un festival antifasciste qui se tient depuis 15 ans sans difficulté. Et en effet, cette tentative de répression de l'événement est bien la conséquence d'une campagne qui a été menée par l'extrême droite locale, avec des députés RN ou des politiciens locaux, comme Alexandre Dupalet, le candidat du parti d'Éric Ciotti, qui est candidat à la mairie de Lyon. Ces personnes avaient déjà fait pression pour faire retirer ce festival de l'accès qui était possible avec le Pass Culture. Vous savez, on pouvait acheter des places de concert via ce dispositif. Et eux trouvaient que c'était inadmissible donc d'offrir cette offre culturelle à des jeunes. À côté de cela, le syndicat policier d'extrême droite Alliance, lui aussi, a fait pression pour tenter d'annuler cette Antifa Fest. Le syndicat Alliance a voulu surfer sur la polémique engendrée par l'action du week-end dernier organisée par les Soulèvements de la Terre. Ceux-ci ont en effet, pendant la fête des Lumières de Lyon, projeté des slogans contre l'extrême droite et les violences policières sur des murs. Et donc, ils ont utilisé cet incident pour s'en prendre au festival qui arrivait dans la foulée. La préfète elle-même, d'ailleurs, a cité cet événement pour motiver sa décision, en estimant que ce piratage, donc des inscriptions lumineuses le soir de la fête des Lumières à Lyon, revendiqué par les Soulèvements de la Terre, a été repris par les organisateurs du festival, qui se sont félicités de l'action sur Instagram. Ce trouble à l'ordre public, valorisé par les organisateurs du festival, s'inscrit complètement dans l'orientation idéologique de l'Antifa Fest, à savoir qu'il y avait écrit donc que la police était responsable de violences policières et qu'elle tuait. Le festival, sa programmation et les intervenants sont connus depuis le début du mois d'août. La préfète décide de l'interdire la veille pour empêcher un recours en justice, alors même que ses arrêtés sont souvent rejetés par le tribunal administratif. D'ailleurs, ça a encore été le cas pour l'Antifa Fest. C'est une manière de faire qui est devenue monnaie courante depuis son entrée en fonction en 2023, avec des manifestations parfois interdites 2 heures avant le démarrage, des événements culturels qui peuvent être interdits le jour même, etc. Tout cela vise à nous empêcher de fait d'avoir le droit à se défendre et à forcer la censure, expliquent les organisateurs du festival. Ainsi donc, le festival a bien été maintenu, mais sa programmation a été impactée par cette tentative d'interdiction. Et ainsi, le concert du rappeur Da Uzi a dû être annulé préventivement pour limiter les risques économiques. De même, pour la conférence « La Palestine, notre boussole antifasciste », elle était censée se tenir le mercredi en présence du militant franco-palestinien Salah Hamouri. Celle-ci a été interdite, censurée là par la mairie écologiste de Lyon directement à la demande de la préfecture, sous le prétexte donc que cette conférence risquait de causer des troubles à l'ordre public en marge de la conférence, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'enceinte. Cette interdiction a donc été, elle, décidée par une mairie de gauche qui cède à la pression de la préfecture et s'aligne sur la criminalisation des militants pour la Palestine, dont fait d'ailleurs régulièrement l'objet l'intervenant Salah Hamouri. Pour ce qui est de cette conférence, les pouvoirs publics ont essayé donc d'interdire l'événement en évoquant un risque d'acte antisémite, en estimant que les débats organisés à l'Antifa Fest étaient susceptibles de réunir des personnalités à risque autour de propos incitant à la violence. Il cite donc ce fameux Salah Hamouri. Ces motivations ont bien surpris les organisateurs, puisqu'ils expliquent « on lutte contre l'antisémitisme, le racisme, l'islamophobie. Salah Hamouri vise la puissance occupante, le sionisme, et non pas la communauté juive ». Derrière cette interdiction, il y a donc visiblement aussi le retour d'une criminalisation des soutiens à la Palestine. L'État français considère qu'il y a un cessez-le-feu, qu'il a reconnu l'État de la Palestine, donc juge qu'on ne doit plus parler de la Palestine, on ne doit plus parler du génocide et de l'occupation. Pourtant, rappellent les organisateurs, Gaza est coupé en deux, les violences continuent en Cisjordanie, et surtout malgré le prétendu plan de paix, chaque jour, Israël continue à bombarder, à tuer des Gazaouis et viole la trêve. Les soutiens de la Palestine et les collectifs pro-palestiniens ne sont pas dupes. C'est pour ça qu'ils sont visés, parce qu'on milite, disent-ils, pour que les Palestiniens aient un avenir en dehors de l'occupation. Face à cette tentative de censure et de répression politique, la victoire de ce festival antifasciste devant le tribunal administratif est donc une bonne nouvelle, hein. Et malgré les intimidations de l'État, de l'extrême droite et des syndicats de police, le festival s'est bien tenu à Villeurbanne ces 12 et 13 décembre. C'est la rappeuse 2L, d'ailleurs, qui est venue remplacer au pied levé le chanteur Da Uzi.
Des nouvelles du monde.
Au Chili, c'est une victoire écrasante de l'extrême droite hein, pour ce pays qui semblait vacciné contre la dictature suite notamment au règne d'Augusto Pinochet hein, de 1973 à 1990. Ce dimanche 14 décembre, à l'issue du second tour de la présidentielle, c'est le candidat ultra-conservateur José Antonio Kast, avocat dans le civil, qui a recueilli 58,2% des voix. Ses promesses de campagne étaient l'ordre et la sécurité, à une société qui, selon lui, est inquiète de la hausse des homicides, hein, à savoir que le taux a doublé ces 10 dernières années, même s'il reste encore inférieur à celui de la plupart des pays d'Amérique du Sud. Avec 41,8% des suffrages, en face de lui, c'est la communiste Jeannette Jara, avocate de 51 ans, désignée par la gauche pour succéder à l'actuel président Gabriel Boric, qui a enregistré le pire résultat pour les progressistes depuis le retour à la démocratie en 1990. Alors comment expliquer que 51 ans après le coup d'État de Pinochet, le Chili ait pu élire un nostalgique de la dictature hein. Faut quand même dire que ce ne sont pas des euphémismes. Hein. Lors de sa première campagne électorale en 2017, José Antonio Kast avait déclaré que si Pinochet vivait encore, il aurait voté pour lui. Ce nouveau président, José Antonio Kast, promet au pays une main de fer sur les sujets de l'immigration et de la sécurité, sans surprise. D'ailleurs, en cela désinhibé par le comportement de Donald Trump ou de Javier Milei en Argentine, il a lui aussi promis de déployer l'armée aux frontières contre l'immigration illégale, d'expulser massivement les sans-papiers vénézuéliens ou colombiens, et de créer plus de prisons, en prenant pour exemple le Salvador de Bukele. José Antonio Kast est aussi un ultra-conservateur, hein, père de 9 enfants, hostile aux droits des femmes, mais il a mis ses thématiques en sourdine lors de la campagne pour s'assurer donc une victoire. Ce fils d'un immigrant allemand qui a appartenu au parti nazi en son temps se veut d'abord un homme de l'ordre et c'est ce qui lui a permis donc de gagner une leçon chilienne mais aussi, n'en doutons pas, internationale.
Une dictature, comme vous y allez. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
Des nouvelles du monde.
Et on termine sur ces nouvelles internationales avec une info plutôt cocasse hein, qui vient des États-Unis. Alors c'est certainement encore une manœuvre de diversion de Donald Trump, puisque son nom aussi circule beaucoup dans l'affaire des dossiers Epstein. Mais là, on va parler de la police. Mais pas de la police dans la rue, non. La police de caractère, la police de la typographie. C'est l'administration de Donald Trump qui vient donc d'annoncer qu'elle jugeait la typographie, donc la police Calibri, trop woke, et qu'il revenait en arrière en revenant au Times New Roman. C'est donc la guerre des polices qui éclate dans les bureaux. C'est par la voix du secrétaire d'État américain Marco Rubio qu'a donc été décidé de bannir cette police Calibri des documents officiels pour revenir donc à l'usage du Times New Roman qui était en vigueur pendant les 20 années qui ont précédé le changement qui a eu lieu en 2023. Ce geste est perçu comme un nouvel acte idéologique contre l'inclusion et l'accessibilité, selon la presse américaine. Si je devais choisir un mot pour décrire Calibri, ce serait sans doute inoffensif, écrivait par exemple le site Intelligencer, qui fait donc partie du New York Magazine. Calibri, c'est une police discrète utilisée par défaut, par exemple dans les produits Microsoft, depuis 2007, et qui a donc été adoptée en 2023 par le département d'État, afin d'améliorer l'accessibilité des documents, notamment pour des personnes dyslexiques ou malvoyantes. Donc l'adoption de cette nouvelle police date de 2023. Elle a été effectivement reliée aux politiques de diversité, d'équité, d'inclusion et d'accessibilité, donc les DEIA, le tout mis en place sous l'administration Biden et qui sont désormais démantelés un à un par l'administration Trump. Cette police sans empattement, donc, pour ce qui est de Calibri, qui est jugée informelle et visuellement incompatible avec les entêtes du département, c'est en tout cas les arguments qui ont été mis en avant par Marco Rubio, et notamment dans le mémo interne qui a été adressé aux diplomates, qui s'intitulait « Retour à la tradition », rien que ça. Il explique sa décision par le souci de rétablir un décorum et un professionnalisme dans les écrits du département. Le Washington Post rappelle les enjeux de ces polices, notamment les polices sans empattement, comme Calibri, qui sont souvent préférées pour ce qui est des supports numériques, en raison de leur simplicité de forme et de leur espacement plus large entre les lettres, ce qui rend donc la lecture plus facile, notamment sur des écrans. D'ailleurs, la mesure a été saluée par plusieurs associations spécialisées. Pour le média américain, donc Washington Post, cette décision de Rubio est cohérente avec d'autres initiatives qui ont été déjà prises, comme la fin des programmes d'aide aux personnes sans-abri en situation de handicap, ça c'était au mois d'octobre, ou bien le durcissement de l'accès aux programmes d'assurance santé Medicaid.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Voilà, on va laisser ces absurdités revenir un petit peu les mains, les pieds dans la terre avec une initiative concrète qui nous vient de Gand. C'était la semaine dernière qui était inaugurée donc des nouveaux bacs de compostage, des composteurs. Ceux-ci ont été installés dans le parc des Olivettes. Ces bacs sont donc faits pour accueillir les déchets organiques, par exemple les restes de table, pour les revaloriser ensuite sous forme de compost, utilisable ensuite dans les jardins. Pour l'occasion, c'était donc le collectif Gange Solidarité qui s'associait au Saint-Thomas, mais aussi à la communauté des communes gangeoises et suménoises, à Hérault Logement et ainsi qu'à la mairie de Gange. Le tout était donc célébré sous forme d'un événement ludique, c'était à partir de 14h le mercredi, et la pluie a été clémente avec les organisateurs et les participants. Une tombola a été organisée, un goûter et des animations, surtout pour expliquer donc aux habitants comment utiliser ces installations toutes neuves. J'ai rencontré sur place Sarah Crosby de Hérault Logement, Valérie Valla, ambassadrice du tri pour la communauté des communes Cévennes gangeoises et suménoises, ainsi qu'Agnès Vincent de Gange Solidarité.
Alors l'histoire de ce projet, c'est un travail d'équipe d'Hérault Logement. Sept collaborateurs décident d'établir un diagnostic sur plusieurs résidences, sur le secteur de cœur d'Hérault. Et on arrive à la résidence Les Olivettes et on se dit, tiens, il y a un jardin partagé qui semble un peu abandonné. On travaille sur les ordures ménagères et les biodéchets. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Donc on a contacté tous les acteurs locaux, comme Carole, à la communauté de communes. On a travaillé avec l'association Gange Solidarité, avec la collectivité, la mairie de Gange, et on a établi un diagnostic partagé dans lequel on s'est dit qu'il fallait mettre en place ces composteurs puisqu'il y avait un besoin et aussi une volonté des locataires de s'inscrire dans une démarche de tri. Et puis voilà, Carole nous a dit « c'est mon domaine ». Alors Carole, elle est ambassadrice de tri.
À la Comcom, donc Cévennes gangeoises suménoises, Carole Valla, bonjour.
C'est ça, bonjour. Du coup, oui, je suis ambassadrice du tri depuis plus de 6 mois, ça fait 8 mois maintenant. Voilà, ma mission, c'est de développer le compostage, c'est une de mes missions principales. De prévenir les déchets de façon générale par le tri sélectif. Et par rapport au compostage, à Gange, on avait un manque au niveau des composteurs collectifs. Donc cette année, on en a installé 3 sites. En une année, c'est quand même une belle avancée. Donc on en a installé un vers le Super U de Gange, en face de l'établissement Berger. Un autre à la sortie de Gange sur la route de Sumène, au pied de la cité Verbois.
Et jardin partagé aussi d'ailleurs.
Pas loin du jardin partagé, effectivement. Et ce troisième qu'on installe aujourd'hui, grâce à ce partenariat avec Hérault Logement, et qui nous permet effectivement de pouvoir enfin mettre à jour ce long projet qui a duré des années et qui a mis du temps à se mettre en place. De composter sur les Olivettes.
Ce projet s'inscrit dans je crois qu'il y a des nouvelles lois qui encouragent en tout cas les villes, les communes à s'équiper. Du coup, est-ce que c'est dans ce cadre-là que ça s'est inscrit, toute cette démarche-là, ou Hérault Logement, comment est-ce que justement ça, ces problématiques-là viennent s'inscrire dedans?
Hérault Logement est engagé dans une démarche RSE qui est vraiment inscrite dans notre ADN, oui, mais c'est surtout que ça a du sens pour nous. Donc quand on nous dit biodéchets, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, on agit. on le fait et on est là aujourd'hui. On a tous les partenaires qui sont d'accord. C'est du gagnant-gagnant. Les locataires, c'est pour eux. C'est un service en plus parce qu'il faut savoir qu'ici, on a des logements qui sont Habitat Senior Service, donc qui sont destinés aux aînés, qui sont en fait juste à côté. C'est-à-dire qu'ils pourront venir ici. On a les jeunes qui viennent aussi dans une démarche à chaque fois pour montrer à leurs parents. Ils le font beaucoup avec les écoles, etc. Donc c'est vraiment pédagogique, mais ça a du sens également. C'est complètement dans notre lignée.
Il y a d'autres projets comme ça qui voient le jour sur le département aussi ?
Alors oui, il y a beaucoup d'actions qui se font par... Il y a 5 agences aérologement et chaque agence, en fait, travaille avec les collectivités et les associations pour pouvoir œuvrer en ce sens.
Et alors Carole, est-ce qu'on peut avoir un petit mot sur l'utilisation de ces nouveaux composteurs qui sont là ? Comment est-ce que les habitants sont invités un peu à prendre en main ce dispositif ?
Ben les habitants sont donc invités à mettre leurs déchets de cuisine et de table. Donc comme je l'expliquais dans l'animation, l'idée c'est de les fractionner un petit peu pour pas mettre de légumes entiers, parce que sinon je me retrouve avec des brochettes de légumes sur ma fourche quand je fais le suivi. Après, l'idée c'est aussi qu'ils prennent conscience que c'est pas vraiment une poubelle, un composteur, que ça va plus loin, que ça demande un geste, quelque chose à faire en plus, notamment mettre du broyat qui permet vraiment l'aération du tas de compost et l'apparition d'êtres vivants nécessaires au processus de compostage. L'idée aussi là, avec le jardin partagé qui est à côté, c'est d'avoir on appelle ça un exutoire. Une fois que le compost a maturé, qu'il puisse passer en utilisation dans le jardin. Du coup, Agnès Vincent, qui est avec nous, peut mieux en parler que moi.
Agnès Vincent,
oui,
bonjour pour Gorge Solidarité. Alors ça y est, ils sont là les composteurs.
Oui,
on en avait parlé ensemble il y a un an, je crois.
Oui, et puis on est un petit groupe à chercher ça depuis le début de l'apparition de la loi, et puis depuis de très nombreuses années. Alors dans le petit jardin partagé qui est associé au parc des Olivettes grâce à Aérologement, il y avait déjà des composteurs mais beaucoup moins visibles et beaucoup moins performants parce que plus étroits, etc. Et donc la présence de ces composteurs, c'est vraiment important. Et c'est aussi très important de faire comprendre peu à peu aux habitants et aux habitantes que ce compost, une fois bien maturé, vont pouvoir le prendre pour leur jardinière, sur leur balcon, pour leurs plantes vertes et l'utiliser. Voilà, moi je crois qu'il y a le versant économique qui compte, mais de voir arriver de la vraie bonne terre et du vrai compost, ça je pense que c'est une très bonne expérience. Donc on espère vivement que ça va donner suite.
Là, il y a 3 bacs derrière moi de taille, il y en a un petit, on va dire, et 2 plus gros. Est-ce qu'on peut, ça, il y a réserve de broyat, le bac d'apport et le bac de maturation. Est-ce qu'on peut avoir un petit mode d'emploi technique ?
Du coup, les 3 bacs ont chacun leur fonction. Il y a le bac de broyat qui permet effectivement de mettre du broyat de bois, qui sert de structurant dans le compost. Donc les gens sont invités à mettre leurs déchets de cuisine et mettre du broyat en plus de leurs déchets de cuisine.
Le broyat, du coup, c'est par exemple vous avec la communauté de communes qui déposez avec les équipes.
C'est ça, on passe régulièrement pour remplir, que le bac soit toujours plein. Ensuite, on a le bac d'apport qui sert à proprement parler à mettre les déchets de cuisine, qui va se remplir au fil du temps. Quand il est plein, on le transférera, on le vide dans un bac de maturation qui est juste à côté et qu'on ferme à clé pour le laisser en sommeil pendant plusieurs mois et donner à la fin un bon compost mature à utiliser.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, le compost, c'est du temps aussi. C'est pour pas mettre directement ses éplucheurs dans le jardin. Bon, ça peut, pourquoi pas, mais c'est pas le processus complet.
En collectif, c'est vrai qu'on a des quantités importantes, donc là, on est obligé effectivement d'être sur une temporalité, un cadre assez clair. C'est vrai que dans son jardin, on peut faire un petit peu ce qu'on veut finalement, mais là, en collectif, ça demande plus de vigilance.
Et donc, c'est vous, avec la communauté des communes, qui vous chargez du suivi, de surveiller justement que l'utilisation de ces bacs fonctionne correctement ?
Alors, mon poste a été créé pour compléter le travail du syndicat qui gère les déchets sur le territoire. Donc le Saint-Thomas, qui passe régulièrement environ toutes les 2 semaines. Et du coup, mon poste a été créé pour compléter, donc je viens en complément, et aussi pour faire de l'animation comme j'ai pu le faire aujourd'hui.
Et alors la suite, ou je sais pas, plus loin, est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça dans les tiroirs, d'autres qui avancent ?
Ouais, il y en a dans les tiroirs, ouais. En fait, sur la communauté de communes, c'est le 13e site qu'on installe, donc on en a déjà pas mal. On en a 3 à Sumène, 2 à Cazillac, 2 à Saint-Bosile, à Brissac.
Que c'est toujours couplé, par exemple, avec comme ici des jardins partagés, ou l'utilisation de ce compost après, justement, comment est-ce qu'elle peut se définir selon les usages et les...
Pour l'instant, malheureusement, pas encore sur tous les sites. Et là, c'est pour ça qu'on en fait un site vitrine, parce que c'est vraiment ce vers quoi on aimerait aller. Wow. Idéalement, oui, on aimerait aller vers plus d'utilisation circulaire et de valorisation du compost.
Bon, merci. Moi, j'ai raté les animations. Ça s'est bien passé. Vous avez
ça s'est très bien passé, ouais. Ouais.
Quelle surprise, oui, des participants, les locataires qui sont venus nombreux. Ils arrivaient un peu de partout et donc du coup l'animation a vraiment plu avec cette mascotte. Alors nous on avait notre mascotte RSE, hein, notre hérisson, mais Carole aussi avait une petite animation de ventriloque.
Voilà, une marionnette lombrique avec son chapeau de magicien, parce que j'ai fait une petite référence à la magie par rapport au compostage, même si en soi c'est pas si magique que ça, ça demande quand même d'intervenir dessus.
Et puis la fin, en fait, qui a été couronnée par le fait de planter un olivier. Et l'olivier, c'est la paix. Voilà, c'est aussi la contribution de tous les acteurs. C'est le but du compost, hein, c'est-à-dire réutiliser les matières pour qu'elles se renouvellent. Et donc, quelle belle fin!
Il est où cet olivier?
Il est juste ici,
dans le jardin.
Voilà, juste dans le jardin partagé.
Et comme on est au quartier des Olivettes, la résidence des Olivettes, ça, c'est parfait, ça boucle la boucle.
Des nouvelles du monde.
Et oui, mais il faut choisir pour les dire, les informations. Allez, c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous donne rendez-vous jeudi pour d'autres actualités. D'ici là, portez-vous bien sur les ondes de Radio Escapade et ailleurs.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiquer. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.